7h25. C'est clair que la grande région de Montréal demeure un point chaud, une zone rouge. Les chiffres s'améliorent, les tendances sont loin d'être mauvaises, mais persiste toujours l'incertitude concernant les variants. Et on en sait un peu plus à chaque fois, c'est-à-dire que le variant qui éclate, par exemple, en milieu scolaire peut amener une série de cas et la contagion extrêmement rapide. Je fais le tour de la question ce matin et d'autres sujets aussi connexes, si vous voulez, avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame Plante, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, quand vous avez vos discussions avec la santé publique, on comprend que, comme partout ailleurs, la période de relâche va être un moment important, là, puis va dépendre du comportement des gens. Mais est-ce qu'ils sont très inquiets pour ce qui est des variants? Là? On voit que le nombre de cas, là, c'est pratiquement 10 % des échantillons. C'est quand même beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Puis oui, en effet, moi, je discute sur une base quotidienne avec la docteure Drouin de la Santé publique de Montréal. Puis oui, le variant est très inquiétant, surtout qu'on sait qu'il se propage plus rapidement via, entre autres, là, on voit là, les jeunes sont somme toute un bon transmetteur. Alors oui, il y a cette préoccupation-là. Il y a aussi l'idée que le variant pourrait devenir le premier, là, c'est-à-dire que le virus à la base, celle qu'on le connaît, ne serait plus le plus répandu, mais éventuellement, fort probablement, là, ça va devenir le variant qui va prendre toute la place et, comme je le disais, qui se propage vraiment rapidement.
Dites-moi, pour la période qui va suivre la relâche, là, donc les mm-hmm. deux semaines les plus déterminantes, est-ce qu'il y a déjà des plans qui sont faits? Puis là, je comprends que les décisions viennent beaucoup de Québec, là, de la santé publique, la Québec, là, mais qui pourrait aller vers des mesures plus strictes ou le maintien de mesures strictes pour Montréal. On comprend que Montréal, on vaccine prioritairement, là, mais est-ce que ça veut dire que les mesures de restriction pourraient durer plus longtemps?
Bien, la vaccination, de un, on commence à l'augmenter à Montréal, hein, parce que jusqu'à tout récemment, c'était toutes les régions recevaient le même nombre de vaccins. Donc, on est content qu'il y ait plus de vaccins à Montréal. Ça commence tranquillement. Bonne nouvelle. Pour ce qui est de ce qui se passe après, de mon côté, moi, j'ai pas eu d'informations supplémentaires. C'est sûr que on se pose des questions à savoir est-ce qu'on devrait quand même intégrer les tests rapides avec les bons et les moins bons côtés que ça peut apporter. Mais moi, j'essaie de prévoir plusieurs coups à l'avance. Je ne suis pas experte, évidemment, mais on n'a pas eu de nouvelles à savoir s'il allait y avoir des plans spécifiques pour Montréal, qui est toujours l'endroit où il y a le plus de décès et le plus d'hospitalisation, là, pour des raisons évidentes.
Comme vous dites que vous prévoyez à l'avance. le printemps arrive, l'été s'en vient. L'an passé, vous avez pris des mesures là, de dernière minute parce qu'on était confronté à la crise. Là. Puis je pense au corridor sanitaire, je pense au retrait de places de stationnement, augmentation de pistes cyclables. C'est quoi le plan pour le printemps puis pour l'été à Montréal?
Mais écoutez, vous le dites, hein, c'est-à-dire que là, on a appris l'année dernière, là, il y a la vaccination qui se met en place, fait que ça aussi, ça nous donne c'est des éléments supplémentaires pour nous aider à prendre les décisions. Ben, je vous cacherai pas que on a appris beaucoup de choses de l'année dernière. Je pense que dans notre empressement à vouloir faire la bonne chose, ça a créé beaucoup de frustration, ça a créé de l'insécurité, là, je pense, pour plein de gens, là, que ce soit des automobilistes ou autres, là. Alors ça, moi, je l'ai pris en compte. Puis cette année, ce qu'on va présenter, c'est oui, des possibles piétonnisations, mais qui vont devoir venir des commerçants eux-mêmes. C'est les commerçants qui vont nous dire, ben écoutez, on aimerait ça avoir un tronçon piéton. Alors, puis à partir de là, ils vont devoir aller chercher l'adhésion des autres commerçants. Et si on a le nombre, un 50 plus à ce moment-là, ça pourra avoir lieu. Alors, on essaie vraiment d'améliorer le processus puis d'être le plus transparent possible avec l'ensemble de la population. Puis pour les pistes cyclables, il n'y a pas de nouveaux tronçons cette année, là, à part ce qui était prévu dans le plan initial, mais on ne fera pas de voies actives sécuritaires, là, les voies COVID. Là, on n'en refait pas cette année.
Pourquoi vous n'en refaites pas?
Ben, il y a déjà une programmation. Fait que c'est pas comme si j'en faisais pas, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des pistes cyclables qui vont arriver. Le rêve sur pile qui était déjà prévu parce qu'on est en train de faire les tuyaux. Donc ça, c'était déjà prévu, un peu comme Saint-Denis. Mais des voies actives, des voies COVID spéciales, j'en ferai pas parce que l'année passée, là, je le rappelle, M. Arcan, quand on avait pris la décision de faire des voies actives sécuritaires, la seule règle en vigueur que le docteur Horacio parlait, c'était le 2 mètres. C'était juste ça qui comptait quand on a pris la décision au mois de mai. Maintenant, on est rendu ailleurs. Il y a les vaccins, il y a 2 mètres, il y a les masques. Ça a évolué. Fait que moi, je prends tout ça en considération, puis je veux que ça se passe bien. Je veux que les gens... J'aime pas ça quand les gens sont frustrés ou pas contents. Là. C'est pas ça mon but dans la vie.
Mais quand vous parlez, non. Mais quand vous parlez de consultation, là, vous dites les commerçants très bien. Est-ce que les citoyens aussi vont... Il y a eu des consultations entre vous et moi là, par le web, plus ou moins sérieuses, où quelqu'un de l'extérieur de Montréal pouvait voter 10 fois. Là. Allez-vous vraiment parler aux citoyens pour les aménagements qui les concernent, pas juste aux commerçants?
Bien, premièrement, quand il y a des aménagements là, cyclables qui sont prévus depuis plusieurs années, tout ce travail-là se fait. Là. Fait que c'est complètement différent, je les éloigne. Pour ce qui est des piétonnisations, vous savez, on les a mis en place, les piétons l'année dernière, entre autres pour permettre aux restaurateurs, aux bars, aux commerçants d'avoir des grandes terrasses pour augmenter leur chiffre d'affaires qui était fait à la limite. Là. Fait que c'est sûr qu'une rue piétonne, puis les chiffres, écoutez, on peut en débattre, mais les données sont quand même fort intéressantes, entre autres sur la rue Wellington ou l'avenue du Mont-Royal, qui démontrent que il y a des gens qui ont réussi à renflouer leur coffre grâce au fait qu'il y avait de l'espace, il y avait de l'animation, il y avait des gens qui venaient. Donc, c'est sûr que pour nous, de donner la responsabilité aux sociétés de développement commercial, de dire « faites votre travail, allez voir vos commerçants, allez chercher de l'adhésion, puis après ça, on jasera, puis la ville pourra vous aider à faire des aménagements intéressants. »
Mais quand je parle de vraie consultation, j'ai besoin de vous le rappeler, là, l'épisode « La petite Italie », là.
Oui.
On disait, on consulte.
Erreur à ne pas reproduire, là, absolument. Okay. Là.
Bon, l'autre dossier que je veux aborder avec vous, c'est le REM. Là. Parce qu'on comprend que, et là, oui. On parle évidemment de la voix en hauteur sur René Lévesque. Les gens de la caisse de dépôt, là, ou de la caisse de dépôt infra, nous disent que le sol est trop faible, que c'est trop compliqué, que ça va prendre du temps en plus, ça va coûter plus cher, que bref, il faut y aller avec une voix à hauteur. Là. Mm-hmm. Et l'image qu'on a, c'est René Lévesque sur le terre-plein avec la voix du REM. Êtes-vous confortable avec ça ou pas?
Depuis le début, moi, je le dis, je veux du transport structurant, là, je suis entièrement derrière ça. Mais les préoccupations qui sont soulevées par la population, par les groupes, sont pertinentes. Puis, je veux juste pas qu'on se fasse l'économie du débat. Je pense que c'est ça qui est important parce que la CDPQ, elle a un modèle d'affaires très précis. Hein. Ce sont des ingénieurs, c'est pas des architectes, c'est pas des urbanistes. Donc, il faut qu'on puisse se questionner à savoir si le souterrain n'est pas possible, parce qu'on aimerait ça avoir les données. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de transparence à ce niveau-là. Et si c'est vrai, allons-y en hauteur. Mais là aussi, il va falloir qu'on ait des preuves, parce que le fait que 2 firmes, par exemple, d'architectes se rétractent, c'est un peu préoccupant.
OK, bien, si la caisse vous dit, Mme Plante, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau au monde, mais c'est rentable, puis on va le faire comme ça, vous n'aurez pas le choix de vous soumettre.
Bien, vous avez raison. Par contre, il y a juste un élément. Quand on dit rentable, parce qu'encore une fois, le modèle de la CDPQ, c'est un modèle précis. Hein? Il y a vraiment des critères très, très, très précis. Et c'est là où, pour moi, comme société et le gouvernement du Québec a un rôle important à jouer là-dedans. Parce qu'il y a des choix qui ont été faits dans le REM 1.0 qui, la CDPQ disait, ben nous, c'est pas ce qu'on privilégie. Mais le gouvernement a dit, ben écoutez, on est prêt à, pour telle ou telle raison, à ajouter, par exemple, des sommes. Alors moi, ce que je veux juste m'assurer, c'est qu'on ne fait pas l'économie de la beauté, de l'intégration urbaine. Ça coûte extrêmement cher un REM en surélevé au centre-ville. Ce n'est pas des pinottes non plus, là, je dois vous dire. Mais on s'attend à ce qu'il y ait des experts, des architectes qui nous disent hey, « Écoutez, pour que ce soit beau, il va falloir, par exemple, pas que ça soit à 5 mètres du sol, mais à 10 mètres, par exemple. Ou il va falloir prendre un peu plus de temps pour qu'il y ait un concours international. » Je ne veux juste pas qu'on fasse l'économie de avoir le meilleur projet, parce que cet ouvrage-là, là, il est prévu pour 125 ans minimum.
Avec tous les projets du REM, là, dans l'Est, par exemple, puis bon, on vient de parler là, de René Lévesque Centre-Ville, mais tout ce qui va se faire plus au nord et plus à l'Est, là, on a-tu vraiment besoin de votre ligne rose?
Ah, bien, écoutez, la ligne rose, à la base, vous savez, c'était pour un projet pour venir beaucoup désenclaver puis désengorger la ligne orange. Hein?
Oui.
Donc moi, quand le REM de l'Est a été annoncé, bien sûr, on en jasait en amont avec le gouvernement, là, ça a été une surprise. Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est une opportunité parce que le REM de l'Est, vous savez, il monte vers Montréal-Nord. Ça, pour moi, c'est fantastique parce qu'un des buts de la ligne rose, c'était ça. désenclaver des coins qui n'ont pas de transport collectif pour où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent.
OK, mais on ne fera pas la ligne rouge puis le REM. Le REM devrait faire la job.
Bien, il va faire une bonne partie de la job, mais je peux vous dire une chose, par exemple. C'est que les études qu'on mène en ce moment nous servent pour trouver une solution pour la ligne orange parce que, pour l'instant, même le REM de l'Est trouve pas une solution pour la ligne orange qui est complètement, ben, en temps normal, là, hors COVID, qui est pas surutilisée, mais elle est extrêmement congestionnée. Fait que moi, je me sers de ça. Okay. Mais moi, j'aime penser que le tronçon, là, qui monte vers le nord du REM de l'Est, c'est la ligne rose. Peu importe la couleur, la technologie, ça vient répondre à cet objectif-là.
OK. Hier, on a annoncé la nomination d'un ministre responsable de la lutte contre le racisme. C'est un ministre blanc, là, pour prendre l'image. Là. Êtes-vous confortable avec cette nomination?
Oh, vous savez, M. Arcan, moi, à ce moment-ci, je veux surtout que la job se fasse, que ce soit en transport, en habitation ou sur les questions de racisme. Écoutez, monsieur Charette, on travaille ensemble sur le dossier de l'environnement. C'est un gros dossier. Je pense que je suis surtout préoccupée par les deux tâches, là. C'est beaucoup, c'est deux gros portfolios. Mais bon, après ça, moi, tous les efforts qui sont faits pour combattre le racisme et la discrimination systémique, moi, je suis...
Le fait qu'il soit blanc, est-ce que pour vous, c'est un enjeu ou pas? Là, je comprends ce que vous dites au sujet des deux ministères dont il a la responsabilité. Ouais. Mais le fait que ça soit un homme blanc, est-ce que c'est un problème ou pas?
Ouais, je sais qu'il y a un débat en ce moment. Puis je vais être vraiment honnête avec vous. Je me trouve pas. J'ai de la misère à me positionner là-dessus. Puis je vous parle personnellement là. Je comprends très bien. On le disait hier, il y avait des comparaisons. Est-ce qu'on nommerait un homme pour être responsable de la condition féminine ou des dossiers des femmes? C'est vrai que moi, je serais choquée. Je serais vraiment surprise qu'on nomme un homme. Pas parce que les hommes peuvent rien comprendre dans le féminisme ou dans les enjeux qui touchent les femmes. Fait que je peux comprendre le malaise. Mais en même temps, je veux dire peut-être de certaines personnes qui diraient, ben, c'est pas un homme noir, c'est pas un homme racisé. Je comprends la sensibilité. Mais en même temps, est-ce qu'on doit nécessairement nommer une personne en fonction de la couleur de sa peau? J'aime penser que peut-être dans quelques années ou dans, on serait rendu ailleurs, mais je comprends vraiment le malaise de plusieurs en ce moment.
Merci, Mme Plante. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Valérie Plante, mairesse de Montréal, 7h37.